des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Priscille Lafitte.
Nous avons l'immense honneur d'être reçus au domicile de la pianiste Brigitte Engerer, correspondant à l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour Brigitte Engerer et merci beaucoup de nous recevoir chez vous.
Bonjour.
Si chaleureusement. Vous êtes entre deux concerts, hein, si je comprends bien.
Oui, entre deux voyages surtout, parce que c'est vrai que nous musiciens sommes un peu des pigeons voyageurs. Je pars demain au Brésil, justement pour un festival de musique russe, je crois, cette année, voilà, pour trois concerts.
De musique russe.
Russe et française d'ailleurs, pas que russe puisque c'est sur le thème des écoles nationales, donc je jouerai de la musique française aussi.
Justement, je voulais parler de cela avec vous. Alors, pour esquisser une biographie rapidement, vous commencez très tôt le piano à Tunis où vous êtes née. Ensuite, vous venez à Paris, vous entrez au conservatoire et vous obtenez un premier prix de piano à l'unanimité. À 16 ans, vous êtes lauréate du concours Marguerite Long et vous partez alors 5 ans à Moscou. Suivre les cours de Stanislav Neuhaus, le fils de Heinrich Neuhaus. Donc, vous avez cette double formation française et russe qui vous poursuit jusqu'à aujourd'hui, en quelque sorte.
Oui, parce que j'ai passé quand même 9 ans en Russie, donc c'est toute une partie de ma vie et c'est toute une partie de cette culture russe qui a imprégné mon esprit, mon âme. Et voilà, et je passerai ma vie avec ça. Je pense souvent en russe. Il m'arrive de rêver en russe. Évidemment, je lis en russe. Je pense que toutes les années qu'on passe jeune à une époque comme ça où l'être humain est un peu comme une éponge où il s'imprègne comme ça de tout, des images, des langages, des émotions, entre 17 ans et 25 ans, enfin, je crois que ça c'est indélébile, ça reste jusqu'au bout.
Alors justement, vous êtes parti à Moscou pour vous former et c'est un choc, hein, dites-vous, de rencontrer les grands pianistes et d'être enseigné par le fils de Heinrich Neuhaus.
Oui, parce qu'Heinrich Neuhaus était vraiment une légende. Il avait été le professeur de Richter, de Gilles. Stanislav Neuhaus avait été le professeur de Radulopou, de Vladimir Kraniev, enfin de plein d'autres pianistes qu'on connaît peut-être moins ici, mais qui étaient très connus en Russie. Bien, d'abord, il fallait que je sois acceptée au Conservatoire de Moscou, donc il y avait une audition. D'abord, une audition préalable pour le maître, Neuhaus, et ensuite une audition auprès de tous les professeurs du Conservatoire pour être acceptée. Donc, c'était une grande émotion de se trouver là. Il faut dire que le Conservatoire de Moscou, à l'époque, il y avait comme professeur Kondrachine, Rostropovitch, Gilles, Lev Oborin, qui était un immense pianiste russe. Bon, c'était le rêve, tant sur le plan du violon, du violoncelle, de la direction d'orchestre, du piano.
Donc
c'était un vivier incroyable et je manquais sans arrêt de temps parce que j'avais qu'une envie, c'était de frapper à des portes de classe et puis d'aller assister à un cours. Il m'est arrivé d'aller assister à des cours de Rostropovitch, il m'est arrivé d'assister à des cours d'autres professeurs de piano et parce qu'on se dit, mon Dieu, on voudrait tout avaler quand on est là.
Est-ce que vous avez pu entrer dans cette école russe totalement? Vous dites que vous avez été imprégné de cette culture au point de rêver en russe. On dit aussi de vous que vous avez été marqué par cette école russe sans être dominé par elle. Comment vous avez concilié comme ça cet enseignement français et l'enseignement russe?
Oui, mais je pense que chaque artiste fait sa propre école aussi. Oui. Et qu'après, c'est Nietzsche qui trouvait que les gens de son époque ne ruminaient pas assez. Et je pense que tout ce qu'on apprend, il faut le ruminer. Et il faut que ça vous imprègne tellement que ça devient votre langage à vous. Et donc moi, mon langage, c'est justement ce mélange comme ça d'envie, de couleurs claires et de la transparence française, de cette fluidité de la musique française, de ce côté très coloriste qu'il y a dans notre peinture aussi. Et en même temps, ce côté violent et passionné qui est dans la musique russe, dans la peinture russe, dans la littérature russe. Voilà, donc ça fait mes oppositions, je dirais, et en même temps ma personnalité, oui.
Des oppositions réconciliables, justement, que vous réconciliez.
Oui, que j'arrive à vivre en musique, donc ça c'est merveilleux, de pouvoir comme ça exprimer plusieurs côtés de sa personnalité grâce à la musique. Un côté méditatif, un côté de tempérament plus extérieur ou un côté méditatif et puis un côté actif. Et puis dans la musique, il y a le rire, il y a aussi l'agressivité parfois. Ça, c'est bon. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir exprimer son agressivité aussi dans une certaine musique. Par exemple, Prokofiev ou Shostakovich, il y a parfois des petits moments comme ça où on a besoin d'un son agressif. Et ça, ça fait du bien de pouvoir comme ça extérioriser toute cette gamme de sentiments.
Et votre troisième culture, la Tunisie, où est-elle dans votre piano ?
Je ne sais pas si elle est dans mon piano. Elle est dans ma manière de vivre, dans ma manière d'être avec les autres, dans ma nostalgie de couleur tunisienne. C'est-à-dire, je rêve souvent du bleu de la mer, dans les odeurs, le jasmin, dans une certaine passivité parfois de mon caractère aussi. Et puis je pense que c'est surtout une manière de communiquer avec les autres, qui était assez décontractée, je dois dire, en Tunisie, et chaleureuse, assez naturelle, disons. Et ce côté, je l'ai retrouvé chez les Russes aussi, plus qu'en France.
Et ça se ressent forcément dans votre jeu de piano qui
est... Je sais pas, peut-être.
Plus lâché, plus détendu que...
Je sais pas, c'est ça, je peux pas juger.
Le hasard des choses veut que cette année, vous ayez enregistré 3 disques. Un disque de musique française, un disque de musique russe.
Et un disque de musique sacrée. Oui. C'était très intéressant, justement. Les 3 domaines, tout à fait différents. Le disque de musique russe, c'est un disque qui est axé sur les souvenirs d'enfance, parce que certaines pièces, je les ai jouées enfant, mais c'est aussi parce que je pense que les compositeurs, lorsqu'ils écrivent, les grands compositeurs, comme Tchaïkovski, comme Shostakovich, comme Rachmaninov, etc., lorsqu'ils écrivent des pièces pour enfants, ils n'écrivent pas seulement dans l'idée que ça va être joué par des enfants, mais ils écrivent avec une nostalgie de leur propre enfance, avec une nostalgie de tous ces sentiments. Par exemple, dans les petites pièces de Tchaïkovski que je joue, j'ai l'impression de voir Tchaïkovski enfant. Quand je joue la mazurka, j'ai l'impression de le voir enfant derrière une porte en train de regarder une fête chez ses parents où tout le monde dansait la mazurka ou la valse. Et on ressent cette espèce de tristesse comme ça de ce moment béni de la vie où tout est, enfin, pour beaucoup d'entre nous, où tout est plutôt merveilleux et plein d'attentes comme ça, émerveillées, je dirais, de la vie.
Et cela, on le ressent aussi beaucoup dans votre enregistrement des Nocturnes de Chopin. On ressent une musique de mère pour son enfant.
Peut-être, oui, aussi, parce que souvent, il y a une tendresse énorme chez Chopin, mais une immense solitude, c'est autre chose. Il y a une grande douleur et en même temps recherche de la solitude.
Thank you.
est-ce que vous, vous avez découvert le piano en parlant, puisque nous parlons de l'enfance? Est-ce que vous arrivez à vous remémorer votre première sensation en tant que pianiste ou en tant qu'auditrice de
piano? Oui, je me souviens très bien quand mes parents m'emmenaient, j'avais 4-5 ans, écouter les concerts de l'orchestre symphonique de la radio de Tunis. Je me revois assise dans la salle et me disant oh, « qu'est-ce que ça doit être merveilleux d'être sur scène avec un orchestre et de jouer un concerto ». Ça, c'était... vraiment un rêve et une envie profonde. Et je me souviens du premier piano que j'ai touché, puisque c'était chez une cousine et que c'était un piano joué. Et je prenais ce petit piano joué en bois et je l'emmenais, il était assez lourd pour moi, je me revois, je l'emmenais dans la salle de bain, qui était toute en faïence. J'avais 3 ans et je revois cette salle de bain, ces carreaux bleus, probablement parce que je trouvais que ça sonnait plus là-bas. Je voulais du grand son.
La réverbération,
voilà.
Le carrelage.
Voilà, donc dès que j'arrivais chez ma tante, je prenais le piano, j'allais dans la salle de bain et je passais l'après-midi là où on pouvait plus m'en sortir. Et donc, ça a fait réfléchir maman qui m'a emmené voir un professeur de piano et on a acheté un piano à la maison et voilà.
Vous l'avez choisi à l'époque, le piano?
Je crois pas, non. Non, pas le premier, puisque j'avais 4 ans.
C'est un piano droit.
Piano droit, voilà. Celui que j'ai ici, oui, je l'ai choisi, j'avais 16 ans. Mon Steinway.
Vous l'avez acheté à la sortie du Conservatoire de Paris?
Mes parents me l'ont offert, oui, lorsque je préparais le concours Marguerite Long. Et donc, ça fait quand même un certain temps. Et j'ai eu l'occasion maintes fois de le changer, c'est-à-dire parce que j'ai vu d'autres pianos dont je pouvais tomber amoureuse et je me disais, bon, bah, très bien, dans un appartement parisien, il n'y a pas spécialement la place pour mettre 40 pianos, donc il faudrait que je change. Et à chaque fois que j'ai dû changer mon piano, je me disais, non, je peux pas. Parce que je veux dire, c'est comme une partie de moi, c'est comme un enfant, c'est comme... Je pourrais pas m'en séparer. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie avec lui.
Vous avez quand même changé la mécanique.
Non, j'ai pas envie non plus. Non, je fais des toutes petites choses. Parce que changer toute la mécanique, ça peut changer aussi l'âme et la couleur. Donc je fais des choses minimes. Et il est merveilleux, d'ailleurs, lorsqu'il arrive à mes élèves du conservatoire de venir ici jouer parce que je suis fatiguée ou que je reviens de voyage et que je dois repartir, donc je leur dis venez ici. Ils sont tous terrorisés parce que c'est un piano qui est vraiment un véritable miroir et qui fait ressortir le moindre défaut, la moindre faiblesse.
Vous avez souvent joué sur des Steinway. C'est votre piano un peu fétiche. Partout où vous allez en concert, vous demandez un Steinway.
En général, oui. Ouais. Il m'arrive de jouer.
Quelle musique que vous jouiez?
Oui, oui. Si je pouvais jouer sur des Bechstein de 1920, je choisirais Bechstein 1920. Mais ce sont des pianos qui sont d'abord très fatigués, évidemment, et qui ne sont peut-être plus en rapport avec les salles dans lesquelles nous jouons, qui sont souvent énormes, et donc on a besoin d'un instrument assez brillant et assez monumental. J'aime bien jouer sur Fazioli aussi.
Et celui-ci reste ici? Vous êtes amené?
Ah non, il reste ici.
Vous êtes arrivé de l'emmener en concert?
Non, il reste ici. Il reste ici.
Quand vous arrivez, on vous programme un concert, vous devez jouer un certain nombre d'œuvres. On a vraiment l'impression que vous établissez ce programme avec beaucoup de soin.
Un programme, oui, c'est une soirée qu'on passe avec un certain nombre de personnes. Donc, on doit construire un petit peu, c'est comme un voyage, c'est comme un chemin qu'on va faire ensemble. Et il faut qu'il y ait une osmose entre les œuvres, il faut qu'on raconte une histoire, il faut que ce soit un peu comme une pièce de théâtre. On peut pas sauter d'un style à un autre comme ça, sans raison. On peut glisser d'un style à un autre à condition que ça ait une logique, que ce soit, comme je vous dis, comme une histoire, qu'on reste imprégné un petit peu dans les mêmes, des mêmes teintes.
Certains vont concevoir peut-être un concert de façon plus intellectuelle, peut-être. Il y a différentes façons d'établir comme ça un programme de façon.
Moi, je considère qu'il y a des compositeurs qui vont pas ensemble, qu'on peut pas jouer dans la même soirée. Et puis, avant toute chose, il faut jouer les œuvres qu'on pense être capable de rendre le mieux possible à cette période-là et de donner quelque chose de personnel au public qui vient vous écouter. Voilà, je crois que c'est ça surtout qui est important.
Est-ce qu'il y a des œuvres que vous jouez aujourd'hui que vous ne jouiez pas hier? Excusez-moi de la simplicité de la question.
Oui, j'ai dit, par exemple, je me souviens, j'avais dit, je ne jouerai jamais Hindemith, je ne jouerai jamais Gershwin. Quand je suis revenue de Russie, par exemple, je disais que c'était deux compositeurs que j'aimais pas du tout. 10 ans après, je les ai joués et je les ai joués avec grand plaisir. Donc voilà, on évolue. Je ne jouais pas presque pas de musique contemporaine. Enfin, j'en jouais pas d'ailleurs en revenant de Russie, puisque l'éducation là-bas était surtout axée sur sur la musique vraiment dite classique, romantique. Il y avait vraiment très peu, bon, à part Shostakovich, mais qui a un langage quand même très facile. C'est parce qu'on appelle la musique vraiment contemporaine. Donc, depuis une dizaine d'années, oui, j'ai commencé à jouer des œuvres contemporaines, à créer même un concerto d'un compositeur allemand qui s'appelle Heller. Je vais créer l'année prochaine un concerto d'un compositeur français qui s'appelle Christian Loba, dont j'ai créé aussi une œuvre à deux pianos il y a quelques temps. Enfin bon, donc voilà, j'ai un petit festival, enfin un festival de piano. J'ai dit petit parce qu'il ne dure que 2 jours et demi. J'invite des amis pianistes, et donc exclusivement autour du piano. À chaque fois, je fais une commande d'une œuvre contemporaine. L'année dernière, j'ai demandé à Frank Kravchik d'écrire une œuvre pour nous. L'année prochaine, je vais demander aussi à un jeune compositeur. Enfin, donc voilà, c'est un langage dont je me rapproche de plus en plus avec le temps. Mais ça n'a pas été évident pour moi, parce que c'est vrai qu'au Conservatoire de Paris, à mon époque et dans ma classe, c'est-à-dire la classe de Lucette Descaves, la musique contemporaine, on n'en faisait pas énormément. Et en Russie, donc pas non plus. Enfin, moi, j'avais joué la sonate de Dutilleux, que j'adore, et c'est un compositeur pour lequel j'ai plus immense admiration et amour, parce que sa musique est absolument universelle, je dirais. Enfin, elle traverse les époques.
Est-ce que vous serez amené peut-être à enregistrer de la musique contemporaine ?
Peut-être, pourquoi pas.
Parce que vous avez surtout enregistré la musique romantique.
Oui, oui. Ça, je ne sais pas. Enfin, ça dépend des occasions. Et...
Des occasions d'enregistrement que vous avez eues assez fréquemment ces derniers temps. Et pourtant, vous enregistrez avec assez de parcimonie.
Oui.
On voit votre discographie.
Je n'ai pas enregistré pendant plusieurs années. Et je n'ai pas enregistré tout de suite non plus dans ma carrière. Le disque n'était pas quelque chose que j'aimais spécialement. J'aimais plus le contact avec le public, le contact plus vrai, la communication aussi avec le public. Parce qu'il n'y a pas que l'acte de l'artiste vers le public, il y a aussi ce que le public donne à l'artiste. Et donc je trouvais ça très inspirant. Alors que le disque, être seul devant un micro, dans une salle froide, je trouvais ça un petit peu comme une boîte de conserve. Donc pendant des années, j'ai eu du mal à faire ça. Puis là, depuis 3-4 ans, je me suis complètement détendue par rapport à ça. Par exemple, le disque avec Henri de Marquette, on l'a fait, on a donné 2 concerts dans une salle qui ont été enregistrés. Et puis on a fait des petits raccords ensuite si on avait envie de refaire des choses. Mais c'était comme un concert. Le souvenir d'enfance, pareil, en fait, j'ai passé 2 journées, j'ai joué chaque pièce 2 ou 3 fois. Et puis voilà, je crois qu'il faut considérer que le disque, c'est aussi comme un concert qui est fixé, comme un moment fixé, comme une photographie. Et il faut pas être paralysé, ce que j'étais peut-être pendant des années, par l'idée de la pérennité comme ça de la chose. Parce que quand on se dit, mon Dieu, ça va rester. En fait, rien ne reste, puisque les disques noirs ont disparu, les DVD vont disparaître, les CD vont aussi disparaître, enfin, tout disparaît. Donc, c'est beaucoup plus rassurant, ça. Je veux dire, le musicien, c'est quelqu'un qui vit l'instant présent et qui donne dans l'instant présent, qui est habitué à ça, au fait qu'il fait des châteaux de sable et que la mer passe pendant la nuit et ce château de sable n'existe plus. Donc, c'est pas dans notre habitude de faire des choses comme ça qui doivent, poum, être comme une pierre et rester pour l'éternité. Oui. J'aime le côté fugace, comme ça, de l'interprétation.
Et pourtant, vous aussi, vous vous délectez de très vieilles interprétations, de très vieux enregistrements.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis pas là non plus à écouter toute la journée des disques, non. Non, j'aime vraiment la musique vivante, j'aime l'émotion vivante.
C'est l'air que vous allez vous-même encore beaucoup au concert ?
Ah oui, quand je peux, quand je suis à Paris, oui, bien sûr.
Ce que je trouve très intéressant, c'est votre travail dernièrement avec Laurence Equilbet et un chœur de chambre. Parce que vous avez beaucoup travaillé avec l'orchestre, vous avez travaillé avec Karajan, avec Baran Boehm. Vous avez fait beaucoup de musique de chambre. Et là, dernièrement, vous avez fait plusieurs enregistrements, Liszt, Schubert et Brahms.
Brahms, le Requiem allemand, oui, la version de Londres qui était pour 2 pianos et chœur. Et je vais enregistrer maintenant le Stabat Mater de Dvorak, dont la première version, voulue par Dvorak, était piano-chœur.
Comment on travaille comme ça, une sonorité piano-chœur.
Ben ça, c'est merveilleux, parce que justement, moi, j'aime les sonorités fluides. D'abord, j'ai toujours aimé la voix. J'ai toujours essayé, au piano, de retrouver la présence et la chaleur de la voix humaine, ce qui est un leurre, parce qu'on n'arrivera jamais avec un piano à retrouver la chaleur d'une voix et l'expressivité, le legato d'une voix humaine. Mais c'est une recherche, de toute façon. Et un jour, Stéphane Lister m'a dit, mais écoute, je te donne une carte blanche à Aix-en-Provence, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et c'était un rêve, j'ai dit, j'aimerais faire cette version du Requiem de Brahms pour deux pianos avec chœur. Et je dois dire que c'était une émotion incroyable pour moi sur scène d'être là avec mon instrument et d'être entouré par toutes ces couleurs de voix, toute cette polyphonie incroyable, cette douceur, cet océan comme ça de tendresse, de voix. J'avais l'impression que j'étais vraiment au paradis. Et c'était une émotion terrible que le Requiem, je crois qu'il dure 1h10 à peu près. Je crois que j'ai pas respiré moi réellement. Enfin, j'espère que j'ai respiré dans la musique. Mais moi, j'étais complètement, sous le coup de l'émotion, j'ai l'impression que j'ai commencé à respirer seulement quand la musique s'est arrêtée. Tellement c'était fort, cette impression de bonheur total d'être entouré par toute cette douceur et cette puissance en même temps, et puis cette richesse de couleurs. C'est très inspirant pour un instrumentiste. Le pianiste est un solitaire. Le piano est un instrument solitaire. Le pianiste est toute la journée tout seul à travailler son instrument. Et je trouve que ça peut finir par devenir stérile à force d'être seul avec ses propres sonorités, avec ses propres émotions, avec son ego, etc., etc. Et qu'il faut absolument travailler avec les autres et échanger des choses et s'inspirer des autres couleurs d'instruments, du violoncelle, de la clarinette, de la voix, de l'orchestre, aller écouter des opéras, aller écouter des symphonies, aller au théâtre, aller à des expositions de peinture. Enfin bon, voilà. Enfin, il ne faut pas rester complètement cloisonné dans son petit monde instrumental.
Et le fait de jouer avec un chœur, ça doit être très différent de l'orchestre. Vous ne bataillez pas avec un chœur comme vous bataillez pour essayer de jouer avec un orchestre.
Non, de toute façon, les répertoires sont très différents. Oui. Le répertoire du concerto, c'est tout de même l'être humain face au destin, ou face au monde, ou face à son courage. Ou, on peut dire ça. Puis aussi, du point de vue sonore, effectivement, il y a un côté comme ça. On doit dépasser 70 ou 80 instrumentistes, enfin, ou en tout cas ne pas se laisser noyer par eux. Ça se fait par le son, mais ça se fait aussi par la personnalité de vos phrasés, etc. Avec le chœur, c'est différent. Il leur faut une assise, je dirais, et il faut en même temps beaucoup de puissance, mais plutôt dans la largeur et dans la lumière que dans la force brutale, disons. Et moi, ça me convient tout à fait parce que j'aime pas les sonorités dures et... Voilà, puis ça dépend aussi des répertoires, évidemment. Dans le Requiem de Brahms et dans le Dvorak, c'est vrai qu'il faut un peu imiter l'orchestre et avoir dans l'oreille les dimensions orchestrales, même si on n'a pas le même résultat, mais on a quand même les dimensions et les couleurs orchestrales. Dans le Via Crucis, c'est tout à fait autre chose, parce que c'est vraiment un dialogue totalement épuré. Ça me fait penser aux vitraux de Soulages, vous savez. C'est dans les blancs et gris et noirs, et puis voilà, et puis c'est dans toutes ces tonalités-là. C'est extrêmement pur, extrêmement sévère et en même temps totalement sincère. Mais c'est un dialogue tout le temps entre le piano et le chœur. Et s'ils sont ensemble, ça se fait dans la douceur et l'osmose la plus totale.
Et Laurent Sekilbey, son chœur Accentus, travaille justement beaucoup sur cette luminosité, sur la transparence, sur le diaphane, hein, des voix.
Oui, oui, mais j'adore ça. J'adore l'entendre travailler avec le chœur, voir comment elle construit la polyphonie à l'intérieur du chœur, comment elle construit l'air qu'il faut entre les différentes voix, et ce qui donne cette transparence et cette beauté.
C'est-à-dire que vous assistez à des répétitions du chœur.
Comme moi, je suis là avec eux aussi. Je l'entends aussi intervenir pour le chœur et ça m'intéresse toujours beaucoup. Non, j'adore travailler avec elle. C'est un immense plaisir musical.
Thank you.
dans vos choix d'enregistrement, vous choisissez, et vous le disiez à l'instant, que vous alliez de plus en plus vers la musique contemporaine. Vous gardez, vous trouvez cette énergie pour aller encore découvrir des nouvelles choses. Comment est-ce que vous allez puiser cette énergie? Vous n'avez plus rien à prouver.
J'ai tout le temps envie de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences musicales, sans prendre de risques ridicules, c'est-à-dire sans dire je vais jouer quelque chose dont je sais à l'avance que je ne vais pas y arriver. Mais j'ai envie quand même de pousser mes limites, oui. Et puis j'ai envie d'apprendre. J'ai toujours envie d'apprendre. On a tous des choses à apprendre. Vous savez, c'est Michel-Ange en mourant. Pourtant, il est mort à un âge, je crois, assez important. Je crois qu'il avait 82 ans ou quelque chose comme ça. Et il a regardé ses mains et il a dit « Oh, quand je pense qu'elle venait seulement d'apprendre l'ABC de l'art ». Alors si Michel-Ange dit ça, moi, qu'est-ce que je suis à la lettre A. Oui, mais il m'aime pas. Non, mais je veux dire, on a toujours des choses à apprendre. Et tant qu'on a des choses à apprendre, on a envie de vivre et on a envie de continuer. Parce que être blasé, se dire « bon ben, j'ai plus rien à prouver, plus rien à apprendre », quelle tristesse, non ? Quelle tristesse, non ? Oh non, mais la vie est trop courte de toute façon pour apprendre tout ce qu'on voudra apprendre. J'ai été très triste quand j'ai eu 50 ans. Pas parce que je vieillissais, mais parce que je me suis dit « zut ». Ça veut dire qu'il y a tellement de choses que j'aurais voulu apprendre et que je ne pourrais pas apprendre. Non seulement dans le répertoire pianistique, mais aussi par exemple, je sais pas moi, parler chinois, parler japonais, je parle déjà quand même, je me débrouille dans pas mal de langues, mais je sais pas apprendre à dessiner, apprendre à danser le tango, ou apprendre, enfin, les choses qu'on n'a pas fait avant et qu'on se dit qu'on aimerait, qu'on se dit toujours, ben, j'aurai le temps, plus tard je le ferai, ou plus tard, puis finalement il arrive un moment où on se dit, ben, on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire.
Et à propos de votre musique, on parle souvent d'images, de poésie, la peinture, la poésie, c'est quelque chose...
Ah oui, c'est très important pour moi, oui. Oui, la poésie russe, beaucoup. J'adore lire la poésie russe, Pasternak, Pushkin, mais aussi la poésie française. Je viens de donner un concert à Biot, dans le sud de la France, avec un programme qui partait de Schubert, en passant par Liszt et ensuite terminant avec Scriabine, avec Daniel Mesguich qui lisait des poésies. On choisissait les poèmes ensemble et on décidait ensemble quels étaient, d'après moi et d'après lui, je lui faisais entendre l'œuvre, quel était le poème qui irait le mieux avant telle œuvre ou après telle œuvre. Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi, comme ça, d'avoir une petite clé pour l'imaginaire du public, pour le diriger vers un certain chemin, pour écouter une œuvre. Pas obligatoirement l'obliger à penser comme moi, mais à aller vers la même direction.
C'est-à-dire que quand vous jouez, vous avez des images qui vous traversent l'esprit ?
Ah oui, toujours des images, des sentiments, des sensations. Quand je dis sensations, ça peut être chaud, froid, très bleu, bleu comme un ciel d'hiver, ou bien profond comme la mer, ou comme une rivière, ou comme une montagne. C'est, ah oui, beaucoup des images, et puis des personnes aussi, et puis des sentiments évidemment.
J'ai lu L'art du piano par Heinrich Neuhaus.
C'est merveilleux ce livre.
Il en parle justement, il parle beaucoup des images.
Oui, beaucoup. Beaucoup. Neuhaus parlait beaucoup de l'imagination, parlait beaucoup, énormément. Il parlait d'architecture, par rapport à la construction, bien sûr, d'une œuvre, mais il parlait de poésie, il parlait de romans, il parlait de personnages, de théâtre.
Comme chose essentielle, constitutive de l'art de jouer de la musique. Chose primordiale, en fait.
Oui. Et puis, ça dépend des œuvres. Je veux dire, il y a des œuvres dans lesquelles on va exprimer plus toutes les demi-teintes des sentiments. Il y en a d'autres qui sont plus théâtrales, donc plus ouvertes et plus extérieures aussi. Il y en a d'autres qui sont plus picturales. Il y en a d'autres qui expriment la parole aussi. Donc, en fait, ça dépend tout à fait. Dans les andantes de Beethoven, on a l'impression, moi, j'ai parfois l'impression que je l'entends lui se parler à lui-même. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est comme si on ouvre une porte et qu'on tombe sur quelqu'un qui est en train de se parler tout doucement à lui-même. Donc, c'est un discours qui n'est pas obligatoirement voulu vers les autres, mais qui est comme une espèce de fatalité. Il est obligé d'exprimer, enfin, il exprime ses douleurs profondes ou ses attentes ou ses espoirs, mais dans la solitude.
Une attitude qui est assez propre au romantisme et qui vous convient particulièrement.
Oui, de toute façon, la solitude, je crois qu'elle est éternelle, non ? Quel est l'être humain qui ne se sent pas solitaire ?
Est-ce que vous composez, Brigitte Ngarrère ?
Ah non, pas du tout. Quand j'étais petite, j'ai essayé vaguement d'improviser et je trouvais que ce que je faisais était tellement peu intéressant par rapport aux œuvres que je connaissais déjà, que je jouais déjà, que j'ai immédiatement arrêté.
Parce que justement, Neuhaus a composé dans son enfance.
Oui.
Il a failli être compositeur. En fait.
Moi, c'était un homme qui avait un tel talent, vous savez. Il écrivait merveilleusement bien, et c'était un orateur extraordinaire. À part ce livre, il écrivait plein d'articles pour des journaux. Il faisait pas des critiques, mais enfin des comptes rendus de concerts, etc. Il parlait parfaitement, je crois, 8 langues. Il lisait aussi bien en italien, en polonais, en grec ou en français ou en russe. Enfin, c'était un homme exceptionnel, grand pianiste, immense musicien et grand pédagogue aussi. Et sa classe, à part ses élèves, parce qu'il avait un nombre très important d'élèves, mais il y avait aussi tout un public qui venait à chacun de ses cours. Oui, la salle de classe était pleine, il y avait plein d'aficionados qui venaient justement écouter le maître donner son cours, parce que c'était toujours tellement intéressant, coloré, cultivé, riche.
Tout à l'heure, vous parliez des choses que vous aimeriez faire en musique.
Il y a des choses que j'aimerais faire mieux, et puis il y a des œuvres que j'aurais aimé jouer ou que j'aimerais jouer. Et pour ça, il faut du temps encore, oui. Enfin, plein de choses. Par exemple, le second concerto de Brahms, que j'ai travaillé déjà une ou deux fois, mais jamais joué, et qu'il faudrait travailler encore pendant quelques mois avant d'arriver à le jouer. Enfin bon, plein d'œuvres de Liszt. Le problème du pianiste, c'est que la littérature pour piano est absolument infinie. Et il faudrait, je sais pas moi, il faudrait 5 vies pour arriver à embrasser toutes ces œuvres, jouer toutes les œuvres de Beethoven, de Liszt, de Schubert, de Chopin, de Schumann.
Tout est encore possible.
Voilà, tout est encore possible.
Merci beaucoup Brigitte Ingerer.
Merci à vous.
Merci de nous avoir reçus. Merci pour cet entretien.
Merci.